Bonjour, donc comme on vous l'a dit, je n'ai pas toujours été dans le milieu associatif. Je me consacre à plein temps, à titre bénévole, à la présidence d'une association qui s'appelle l'Association pour favoriser l'égalité des chances à l'école depuis 5 ans. Avant ça, j'ai donc été chef d'entreprise pendant quelques dizaines d'années. Et en fait, j'ai découvert ce sujet qui sont les échecs scolaires précoces. Tout à fait par hasard. J'assistais à une conférence et je dois dire que j'étais pas très attentif. On était en train de me parler d'illettrisme, donc j'écoutais cette conférence sur l'illettrisme, sur les problèmes, évidemment, les ravages que cause l'illettrisme. Et mon manque d'attention faisait que j'étais en mon fort intérieur persuadé qu'on était en train de me parler de la Mauritanie, de la Somalie ou d'un pays extrêmement lointain. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je me suis réveillé et je me suis rendu compte qu'on n'était pas en train de parler de quelque chose d'un lointain, mais on était en train de parler de notre pays. Et pourquoi on était en train de parler de notre pays? Parce qu'effectivement, contrairement à ce que un observateur inattentif tel que celui que j'étais pouvait le croire, eh ben l'illettrisme est aujourd'hui encore un vrai sujet de société dans la France d'aujourd'hui. Et c'est non seulement un vrai sujet de société parce que il y a encore aujourd'hui 2 700 000 personnes qui sont illettrées en France, et on peut considérer que c'est quand même 2 700 000 de trop, mais qu'en plus on alimente ce parc, si je puis dire, ce nombre de 2 700 000, de 140 à 150 000 nouveaux entrants chaque année. C'est-à-dire que notre école, par rapport à des populations qui sont scolarisées, est en échec sur cet apprentissage pourtant fondamental qui est celui de la lecture et de l'écriture. Et il y a, c'est un chiffre que d'ailleurs le président Hollande a rappelé au cours de son discours sur la réforme actuelle des collèges, pas plus tard qu'hier, il y a chaque année 140 000 à 150 000 enfants qui sortent du système scolaire français en étant en situation d'illettrisme. Donc ça méritait qu'on s'y intéresse, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que je me suis impliqué dans cette association qui s'appelle donc l'Association pour favoriser l'égalité des chances à l'école. Alors cette association, au départ, c'est une association créée par des enseignants, et le choix des enseignants n'était pas forcément de s'intéresser à ce sujet. Ces enseignants avaient remarqué au cours de leur carrière que, comme on peut s'en douter, et comme sans doute certains d'entre vous ont pu le connaître, le rencontrer, il se passe des tas de choses formidables à l'école. Il y a partout en France des tas d'enseignants qui mettent en œuvre des dispositifs absolument remarquables, efficaces. Mais, dans la quasi-totalité des cas, lorsque les personnes qui portent ces projets raccrochent, arrêtent, eh bien le dispositif disparaît avec eux. Donc ces enseignants se sont réunis au départ pour créer une association qui recenserait des dispositifs efficaces et qui essaierait de faire en sorte que ces dispositifs deviennent pérennes et, mieux encore, essaiment aux quatre coins de la France. Alors, ils ont dit, mais par quoi on commence? Et assez vite, on est en 1993, un choix a été fait, celui de se concentrer sur la prévention des échecs scolaires précoces. Pourquoi? Ben, je l'ai dit, parce que c'est 140 000 enfants qui chaque année sortent de l'école primaire sans maîtriser les bases de la lecture et de l'écriture. Et comme par hasard, on retrouve exactement le même chiffre de 140 000 enfants dans ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a un nouveau terme que les médias ont inventé qui s'appelle les décrocheurs. Donc on appelle ça les décrocheurs maintenant. Qu'est-ce que c'est ces décrocheurs? Ce sont des enfants qui quittent la scolarité obligatoire, donc à 16 ans, sans avoir un seul diplôme acquis. Ni même pas le brevet des collèges, pas un CAP, rien. Ils ont fait toute une scolarité obligatoire, ce qui non seulement effectivement a un coût économique, mais ce qui surtout démontre à partir du moment où ils n'ont pas été récompensés d'un diplôme à quel point leur parcours scolaire a dû être difficile, voire tumultueux. Eh bien, ils sont 140 000 à sortir à 16 ans du système scolaire sans aucun diplôme. Le deuxième chiffre que j'aurais partagé avec vous, c'est 230 000 euros. Ça, c'est un chiffre qui est plus récent, qui a été mis en lumière par un cabinet d'études qui s'appelle le Boston Consulting Group, qui a fait une grande enquête en 2013. Et cette enquête a montré que ces enfants-là, qui sortent à 16 ans du système scolaire sans aucun diplôme, coûtent au pays 230 000 euros en moyenne chacun, car évidemment, ces enfants qui n'ont aucun diplôme à 16 ans, inutile de vous dire qu'on va les retrouver dans les rangs du chômage avec un taux de chômeurs parmi eux qui est extrêmement important et le taux de chômage est inversement proportionnel au niveau de scolarité atteint, c'est-à-dire que le chômage est pratiquement inexistant sur les bac plus 5, il est au niveau qu'on appelle le niveau résiduel, c'est-à-dire à 3 ou 4%, c'est-à-dire le niveau normal d'ajustement de l'emploi. Et il monte chez, effectivement, ces personnes qui sortent sans aucun diplôme, il monte à 45%. Donc c'est 45% de cette population qui se trouve au chômage, ce qui est un coût absolument phénoménal. Et pour certains d'entre eux, malheureusement, à cela viennent s'ajouter d'autres coûts, puisque les problèmes peuvent s'accumuler lorsque on est dans cette situation. Alors, la faiblesse de notre système éducatif, on peut dire, est-ce qu'il y a débat, est-ce qu'il n'y a pas débat, est-ce qu'on exagère, etc. Alors, j'ai pensé qu'il était plus simple de donner carrément la parole au ministère de l'Éducation nationale. Et donc, ceci est un extrait de education.gouv.fr, c'est-à-dire c'est le site du gouvernement, c'est le site du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, qu'est-ce qu'on lit sur ce site? Alors, sachant que ce dont on parle dans ce paragraphe, c'est ce qu'on appelle les résultats PISA. Alors, PISA, c'est peut-être un mot dont vous avez entendu parler, c'est une enquête internationale qui est faite auprès des enfants de 15 ans, d'une soixantaine de pays dans le monde et qui mesure le niveau de connaissances, de savoir et de compétences des enfants de ces différents pays. Cette enquête qui est faite à peu près tous les 2 ans, je crois, a été présentée la dernière fois au Conseil des ministres le 4 décembre 2013 et voilà ce qui est dit par le ministère de l'Éducation nationale. Les résultats du système éducatif français sont préoccupants parce qu'ils mettent en évidence, sur les 10 dernières années, une baisse du niveau en maths, un accroissement des écarts de niveau qui s'explique par le plus grand nombre d'élèves en difficulté, une aggravation des déterminismes sociaux. L'école française est aujourd'hui celle des pays de l'OCDE où l'origine sociale des enfants pèse le plus lourd dans les résultats scolaires et cette tendance s'est accrue ces 10 dernières années. Je le répète, il ne s'agit pas d'un texte polémique, il s'agit bien d'un texte officiel qui est celui du site du ministère de l'Éducation nationale. C'est vous dire l'acuité de ce problème et également la méconnaissance de ce problème, car si l'on parle souvent de l'éducation, par exemple en ce moment, encore une fois, à cause de la réforme des collèges, il n'est pas courant que l'on insiste sur ce point, L'école française est aujourd'hui celle des pays de l'OCDE où l'origine sociale des enfants pèse le plus lourd dans les résultats scolaires, et cette tendance s'est accrue ces 10 dernières années. C'est quelque chose sur lequel nous reviendrons tout au long de cette conférence. Il y a un fait environnemental, culturel et social que, pour un certain nombre de raisons, on a tendance en France à minimiser, voire occulter, lorsqu'on cherche à travailler sur l'amélioration des résultats de notre école. Donc notre association, en 93, a décidé de se concentrer sur la prévention des échecs scolaires précoces parce qu'elle a acquis dès 93 une conviction. On peut agir, on peut éviter, il y a le moyen d'être efficace afin que l'échec et que le sentiment d'échec ne s'installe pas dès le plus jeune âge. Car toutes les analyses montrent qu'à 80%, l'échec d'un enfant de 16 ans s'est installé dès l'âge de 6 ans. Un enfant de 6 ans qui se retrouve en échec, à 80%, va avoir une scolarité ratée. Fort heureusement, il existe des systèmes de remédiation, comme on dit, qui permettent à peu près 20% des enfants de revenir sur de bons rails. Mais malgré tout, on peut considérer que 20%, c'est insuffisant, et que condamner dès l'âge de 6 ans 80% des enfants à l'échec scolaire précoce, c'est quand même quelque chose qui est peu acceptable. Alors pourquoi cette conviction? Parce que l'association découvre en 1993 un dispositif qui existe. Il existe. Il existe en région parisienne, en banlieue parisienne, dans la ville de Colombes, et c'est le coup de pouce de Colombes. Alors qu'est-ce que c'est que ce coup de pouce de Colombes? Eh bien, l'histoire du coup de pouce de Colombes est la suivante. C'est-à-dire que tout ce que je viens de raconter, monsieur le maire de Colombes, dans la fin des années 80, le découvre dans sa bonne ville. Il se dit, mais je ne peux pas accepter ça. Je ne veux pas, moi, que dans ma ville, il y ait un tel nombre d'enfants qui sortent de l'école sans savoir lire et écrire. Et il se bouge. Il découvre qu'il existe en France un institut qui s'appelle l'Institut National de la Recherche Pédagogique, l'INRP. Il rencontre ces gens, il trouve un financement, il fait travailler des chercheurs de l'Institut National de la Recherche Pédagogique, et ces chercheurs inventent le coup de pouce de Colombes. Alors, ces chercheurs, qui s'appellent Gérard et Eliane Chauveau, ils font un constat très simple. Il y a un certain nombre d'enfants qui, pour un certain nombre de raisons, s'avèrent fragiles dès l'entrée en CP quant à leur acquisition potentielle en lecture et écriture. Ces enfants fragiles existent dans tous les milieux culturels, sociaux. Toutefois, on constate, à la fin des fins, que le taux d'enfants en échec dans l'apprentissage de la lecture et écriture dans les écoles de Neuilly-sur-Seine n'est pas le même que celui qu'on observe à la Courneuve. Que s'est-il passé? Il s'est passé que, pour la plupart des enfants, les enfants fragiles trouvent le soir à la maison un accompagnement, le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère, un grand frère, grande sœur, voisin, voisine, éventuellement même un professionnel, une orthophoniste, de plus en plus maintenant Acadomia ou ses concurrents, qui font que l'enfant va trouver l'accompagnement qui va faire que sa fragilité va être compensée par l'accompagnement dont il a besoin. Eh bien, un certain nombre d'enfants ne trouvent pas, n'ont pas, tous les soirs, à la maison l'accompagnement adéquat dont ils ont besoin. Alors, je ne suis surtout pas en train de dire qu'il y a un déterminisme social, c'est faux, car la plupart des enfants des milieux dits défavorisés réussissent, la grande majorité, et c'est heureux, réussissent. Mais malgré tout, il faut avoir l'honnêteté de constater que les enfants fragiles qui sont dans des milieux défavorisés et qui ne trouvent pas l'accompagnement dont ils ont besoin, eux vont former les cohortes d'enfants qui vont être en échec scolaire précoce. Et donc toute l'idée des chercheurs, Gérard et Alien Chauveau, c'est de dire on va apporter à ces enfants-là le soutien, l'étayage dont ils ont besoin, et cet étayage, il va consister en un dispositif qui va à la fois concerner les enfants et les parents. J'expliquerai exactement un peu plus loin en quoi consiste le dispositif, mais que fait notre association en découvrant donc ce coup de pouce de Colombes ? L'idée, c'est de dire à Colombes, la ville de Colombes, avec l'aide de chercheurs, de pédagogues professionnels, de scientifiques, a mis au point un dispositif efficace. Ça fait, quand l'association le découvre, 5 ans que c'est en place à Colombes. À Colombes, tout le monde est ravi. Il y en a dans toutes les écoles. Le maire est ravi. La population est ravie. À l'INRP, ils sont ravis. Ils ont un dispositif qui marche. Basta cosi. On pourrait toujours, 25 ans après, avoir le coup de pouce de Colombes à Colombes. Et les gens de Colombes très contents. Etc. L'association dit que ça vaut peut-être le coup d'essayer d'essaimer ce dispositif. Mais d'essaimer ce dispositif en s'assurant que les performances vont être reproductibles. Et c'est là où il va y avoir un deuxième travail. Il y a le dispositif lui-même qui est le coup de pouce dont on va parler. Et puis il y a les conditions qui vont faire que demain, de Perpignan à Lille ou de Dinan à Nice, on est capable de reproduire avec la même efficacité dans toutes les écoles de France un dispositif qui marche. Et pour ça, on va s'appuyer sur 2 choses. Une méthode très précise, très définie et très normée, et une ingénierie qui va permettre d'assurer la reproductibilité du dispositif. Alors, le concept coup de pouce clé, c'est quoi ? L'idée, c'est surtout que l'on ne refait pas le temps de la classe après la classe. Le temps de la classe est celui dans lequel, pour simplifier, je vais dire, on va apprendre le B.A.B.A., c'est-à-dire que le temps de la classe est celui des apprentissages. Mais le blocage qu'ont les enfants les plus fragiles qui ne trouvent pas l'accompagnement dont ils ont besoin, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est avant tout lié à 2 choses fondamentales, la motivation et le sens. C'est-à-dire que ce dont ces enfants ont besoin, c'est d'avoir envie, et la deuxième chose dont ils ont besoin, c'est de à quoi ça sert ce que je suis en train de faire. N'oublions pas que nous sommes sur des enfants de 6 ans. Alors évidemment, ils ne se posent pas la question du sens dans les termes que j'emploie, mais c'est exactement cela. Si moi, demain matin, vous venez me demander d'apprendre l'assyrien du 3e millénaire avant Jésus-Christ, je ne suis pas complètement persuadé, moi, personnellement, que je vais être extrêmement motivé et que je vais véritablement ressentir une utilité forte à l'apprentissage de l'assyrien du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Eh bien, pour des enfants, car c'est de cela dont il s'agit, qui, à la maison, ne voient jamais un écrit, il n'y a pas, dans beaucoup de familles concernées, il n'y a pas un livre dans la maison, il n'y a pas un journal, il n'y a pas un magazine. Pourquoi voulez-vous que ce truc aussi abstrait qu'apprendre à lire, alors des écrans, il y en a. de toute taille, du smartphone à grande télé, etc. Pourquoi apprendre à lire? Donc, la problématique n'est pas de refaire le travail de l'enseignant. L'action du coup de pouce-clé est une action périscolaire, c'est-à-dire complémentaire du temps de la classe, et c'est une action périfamiliale, car c'est une action qui est à la fois quelque chose qui va concerner l'enfant, c'est-à-dire qui va donner à l'enfant du temps de fréquentation de la chose écrite, mais qui va aussi concerner l'ensemble de la famille. Le deuxième point de ce concept, c'est que ça n'est pas une potion magique, ça ne fait pas tout le coup de pouce-clé. Il y a des tas de choses que ça ne fait pas. Par exemple, le coup de pouce-clé n'est absolument pas fait et n'est absolument pas efficace pour tous les enfants, mais heureusement, ils sont peu nombreux, ils sont une toute petite minorité qui ont un problème de nature médicale. Certains enfants souffrent de problèmes de nature médicale, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle les 8-10, dyslexie, dyspraxie, etc., je vous épargne les 6 autres, ou bien qu'il s'agisse de troubles de l'apprentissage d'importance plus ou moins grande. Ces choses-là nécessitent une prise en charge par des professionnels spécialisés qui vont de l'orthophoniste au neurologue en passant par les différents intervenants. Donc le coup de pouce-clé n'intervient absolument pas sur ces éléments-là. Il ne joue que sur un type d'égalité et une seule, c'est sur ce qui se passe tous les jours à la maison. Est-ce que à la maison, les enfants reçoivent l'aide adaptée tous les jours dont ils ont besoin? Est-ce qu'à la maison, il y a un environnement lecture-culture qui fait qu'effectivement, le fait d'apprendre à lire est quelque chose qui peut avoir un sens pour un enfant de 6 ans. Donc le coup de pouce-clé, il a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de donner aux enfants qui en ont besoin plus d'expérience et plus de réussite en lecture-écriture. Plus d'expérience, c'est-à-dire qu'on va voir comment on va proposer à ces enfants-là un bain de lecture en plus du temps de la classe, et plus de réussite. J'y viendrai, mais un mot tout de même là-dessus, c'est un point clé. Il est absolument fondamental que ces enfants qui sont fragiles ne se trouvent pas en situation d'échec ou de difficulté. Et donc, un des points cardinaux de la méthode coup de pouce-clé, c'est toujours, 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 toujours placer les enfants en situation de réussite. Deuxième objectif, il concerne les parents. Le coup de pouce-clé a ceci d'original, dans ce que c'est non seulement une action qui s'intéresse aux enfants, mais qui s'intéresse aux parents, et donc qui va donner aux parents un élan et aussi quelques moyens pour se mobiliser et s'impliquer plus efficacement et tout simplement plus dans l'accompagnement de leurs enfants, et ce, quel que soit leur degré de connaissance de la langue française, puisqu'il y a parmi les enfants concernés un certain nombre d'enfants qui sont en difficulté de lecture aussi parce que la langue parlée à la maison n'est pas le français. Et que quand on ne maîtrise pas une langue, c'est quand même assez compliqué d'apprendre la lecture, la gymnastique de la lecture dans cette langue qui vous est étrangère. Alors, comment ça marche? Eh bien, un club coup de pouce-clé, c'est d'abord un club qui donc se passe le soir, après l'école. Alors, avant Vincent Peillon et la réforme des rythmes scolaires, c'était partout en France de 16h30 à 18h. Aujourd'hui, c'est après le temps de la classe, pendant une heure et demie. Donc, selon les lieux, c'est 15h15, 17h45, 16h, 17h30, peu importe. C'est une heure et demie après le temps de la classe. Et ça réunit 5 enfants. Pourquoi 5 enfants ? Parce que le groupe de 5 enfants est un groupe qui a 2 vertus. La première vertu, c'est que c'est un petit groupe dans lequel on va pouvoir effectivement travailler de manière très personnalisée avec chacun des enfants, mais qu'en même temps, on va utiliser la dynamique de groupe. Et on voit dans l'histoire, quand un club coup de pousselet, ça dure de novembre de l'année scolaire jusqu'en juin, et on voit au fil du temps, plus le temps d'un club coup de pousselet avance, plus on voit cette chose merveilleuse, c'est que le meilleur instituteur pour un enfant, c'est son copain ou sa copine. Et donc l'effet groupe est extrêmement important. On nous dit parfois, mais pourquoi vous sortez pas les enfants qui, dès le mois de février ou dès le mois de mars, ont totalement surmonté leurs difficultés ? Parce qu'il y en a. Il y en a pour lesquels le déclic se fait très vite. Bon. Il y a 2 raisons. La première, c'est que ça a été tenté et on s'aperçoit que les enfants le vivent mal, c'est-à-dire qu'ils adorent les clubs coup de pousselet, et donc ce serait quand même anormal de punir ceux qui réussissent. Et la deuxième, c'est que, comme je viens de le dire, ils deviennent les meilleurs alliés de l'animateur du club pour faire progresser les autres enfants qui, eux, sont encore en difficulté ou encore en apprentissage. Alors, comment ça se passe concrètement ? Eh bien, ce dispositif, il va être décidé d'abord au niveau d'une ville, on verra après dans le détail comment ça se passe, mais il est décidé donc dans une école et dans une classe de cours préparatoire. Parce que, je l'ai dit, il est important d'agir le plus tôt possible, et l'année de l'apprentissage de la lecture, dans le système actuel, c'est l'année du cours préparatoire. C'est l'année centrale, même si on prépare, et semble-t-il, ça va s'accentuer des choses en grande section de maternelle, et même si on se donne l'année du CE1 pour parfaire les acquisitions dans le domaine de lecture. L'année centrale sur la lecture, c'est le cours préparatoire. Donc on se focalise sur cette année-là, qui est l'année où effectivement l'enfant ne doit pas prendre de retard, et ça se passe de la manière suivante. C'est l'enseignant de cours préparatoire qui est aux commandes. Et tous les enseignants de cours préparatoire, on les a formés, on leur a expliqué ce qu'est un coup de pousselet, on leur a dit les difficultés auxquels le coup de pousselet était en capacité d'apporter des réponses efficaces et les sujets sur lesquels il fallait d'autres actions. Et les enseignants, au bout de 3 à 4 semaines, sont parfaitement en capacité d'identifier quels sont les enfants dans la classe qui sont potentiellement fragiles et qui donc devraient bénéficier d'un club coup de pousselet. Lorsqu'un enseignant a accepté qu'un club coup de pousselet concerne les enfants de sa classe, car les coups de pousselet ne sont mis en place que quand il y a une adhésion volontaire de tous les acteurs. Si l'enseignant ne veut pas, pas de coup de pousselet, on n'impose rien. C'est un système entièrement basé sur le volontariat. Lorsqu'effectivement l'enseignant a repéré les enfants qui lui paraissent relever du dispositif, il va d'abord en parler à l'enfant. Et il va demander à chacun des enfants concernés, est-ce que tu serais d'accord pour participer à un club le soir avec 4 de tes petits camarades ? À ce stade-là, c'est 100% des enfants qui disent oui. Et là, l'enseignant va dire, bon, bah, écoute, pour ce faire, il faudra l'accord de tes parents. Est-ce que tu peux demander à tes parents de venir me voir ? Eh bien, on peut considérer que le coup de pousselet, il démarre là. Parce que souvent, nous parlons là de familles dont les parents sont souvent en grande difficulté relationnelle avec l'école, voire même en grande difficulté relationnelle avec l'ensemble des institutions de la République. Les familles viennent et l'enseignement va tenir aux parents un discours qui est à peu près celui-là. Votre enfant a beaucoup de chance. Il a été choisi pour faire partie d'un club avec quatre de ses petits camarades. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est entièrement gratuit pour vous. Les frais, parce qu'il y a des frais, sont pris en charge par la ville, par votre municipalité, mais c'est entièrement gratuit pour vous. Et ça va se passer de la manière suivante. Il va rester le soir après la classe, pendant une heure et demie, avec quatre de ses petits camarades, tous les soirs de la semaine. Et il va... Parce que vous avez remarqué quand même qu'il a... c'est pas grave du tout, mais il a deux, trois petites choses sur la lecture. Il va pouvoir... progresser et apprendre des choses pour devenir vraiment un bon lecteur plus rapidement. 99,9% des parents disent oui. Il y a quelques refus, mais en majorité, ils disent oui. Et ils disent oui, et c'est d'autant plus remarquable que l'enseignant poursuit en disant « Mais comme ça a un coût, on va vous demander, vous aussi, de... respecter un certain nombre d'engagements. » Alors, le premier engagement, c'est que comme votre enfant va rester une heure et demie après la classe, tous les matins, vous allez donner à votre petit garçon ou à votre petite fille un goûter. Car la première chose que les enfants vont faire au club Coup de Pousselet, c'est ensemble, avec leur animateur, prendre ensemble un goûter. Je reviendrai sur ce goûter, c'est un moment très important du dispositif. La deuxième chose qu'on va vous demander, c'est que On est à la rentrée scolaire, on est en octobre. Le Coup de Pousselet va démarrer en général après les vacances de novembre. Il commence à faire nuit assez tôt. Donc on dit aux parents, il faut absolument que vous veniez chercher votre enfant après la fin du Coup de Pousselet, parce que vous voyez, c'est 18h, etc. Il y a moins de monde dans l'école. On ne peut pas laisser votre enfant vadrouiller tout seul dans l'air. Il faut que vous veniez, etc. Et en plus, c'est l'occasion de faire le point avec l'animateur, une minute ou deux, simplement, mais ça permet de faire un échange. Troisièmement, sur le chemin du retour ou à la maison, mais tous les jours, vous allez poser une question à votre enfant sur comment ça s'est passé aujourd'hui à l'école. Alors, ce que vous voulez, comment ça s'est passé avec l'institutrice, pendant le club Coup de Pousselet, est-ce que tu as bien lu, est-ce que c'était une fin. Mais tous les jours, vous allez poser une question sur comment ça s'est passé à l'école. Et enfin, quatrièmement, vous êtes invité à venir, entre maintenant et le mois de juin, quand vous voulez, quand ça vous arrange, mais assister à trois séances du club. Pour que vous voyez comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que ce Coup de Pousselet, que vous soyez là concrètement et que vous voyez comment votre enfant participe à ce club Coup de Pousselet. Voilà les quatre engagements qu'on vous demande. Et comme effectivement je vous l'ai dit, Monsieur le maire s'engage puisqu'il va financer ce Coup de Pousselet qui a un coût, eh bien, sur ces quatre engagements, on va vous demander de signer un contrat. Et donc, monsieur, vous allez recevoir une invitation. Monsieur le maire va vous inviter. En général, nous poussons à ce que ce soit cela. La signature de ces contrats se fait en mairie. Et si possible, de la manière la plus, je ne sais pas si on dit cérémonielle ou cérémonieuse possible. Enfin, avec le plus de cérémonie possible. Et ce moment de la cérémonie de signature des contrats des enfants est un moment de très grande émotion, de très grande solennité, de très grande émotion, et c'est le véritable lancement du dispositif. Et j'espère que vous aurez la chance de voir ça un jour. C'est incroyable de voir ce qui se passe à ce moment-là dans les yeux des enfants. C'est absolument fondamental. Les enfants, qui, vous le savez, sont des éponges, captent à ce moment-là ce qui est en train de se jouer. Ils captent que ce sont eux les héros, que quelque part, il y a des grands, des adultes, etc., qui ont... Bon, les élus municipaux, et encore une fois, on les encourage à faire ça, s'ils en sont d'accord, sont parés de leurs atours les plus officiels. Donc, lorsqu'un maire met son écharpe, c'est bien. Si c'est une adjointe ou un adjoint, c'est bien aussi. C'est la plus belle salle possible, etc. Il faut que ça soit le plus fort, le plus chargé possible symboliquement. Et plus les villes ont un dispositif coup de pouce clé ancien, plus elles ont acquis ce réflexe-là, plus elles en ont mesuré l'importance, et plus les choses se font dans ce sens. Donc voilà les trois, je dirais, bases du démarrage d'un club, la sélection des enfants, l'entretien avec les parents et la cérémonie d'ouverture. Et donc, à partir de là, le club démarre et commence. Et tout au long de l'année, il va donc réunir nos cinq enfants avec une séance d'une heure et demie qui est normée. C'est-à-dire que cette séance, elle est faite, elle est administrée par des animateurs. Point très important, ces animateurs ne sont pas des bénévoles, ils sont rémunérés. Ils sont rémunérés pourquoi ? Car nous avons vis-à-vis d'eux une double exigence, une exigence d'assiduité. Il est très important, la quotidienneté est un point excessivement important de l'efficacité du dispositif. Donc, la quotidienneté doit être assurée par une présence tous les soirs de novembre à juin des animateurs. Et d'autre part, le dispositif est normé, ça veut dire que nous avons un certain nombre d'exigences. Et il n'est pas question pour les animateurs de sortir du cadre. Ils ont une autonomie, c'est-à-dire qu'il y a ils ont la capacité d'inventer des jeux, etc. Enfin, on va voir dans les différentes phases, mais ils doivent respecter ce qu'on appelle le protocole de manière extrêmement claire, et là aussi, c'est la garantie de l'efficacité. Donc, le départ d'une séance, c'est le relais entre l'enseignant et l'animateur. 4h30 ou 15h30, peu importe. La classe de CP est terminée, l'enseignant qui a fini, car l'animateur ne peut pas être en aucun cas l'enseignant du cours préparatoire. Ça peut être un enseignant de l'école, d'une autre classe, un enseignant de CM1, de CM2, de CE2, et ça c'est très bienvenu, mais ça ne peut pas être l'enseignant qui a fait le cours aux enfants. Et donc l'enseignant qui a eu les enfants dans le cours préparatoire, en 2-3 minutes, passe le relais en disant ben, « Aujourd'hui, il faut porter une attention au petit Kevin parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa famille ou ce qui ne s'est pas passé, mais bon, il y a un truc. Par contre, les autres, ça va, machin, etc. Bon. » 2-3 minutes essentielles, très court, un temps très court, mais essentiel. Le fameux goûter, d'abord, c'est un sas obligatoire pour les enfants. Les enfants sortent d'une journée scolaire. Alors là, je voudrais quand même tordre le cou à une idée qu'on a beaucoup entendue à l'occasion du débat sur la réforme des rythmes scolaires. Au passage. Parfois, on nous dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que votre truc ? Mais les enfants sont déjà fatigués, vous les gardez une heure et demie de plus ? Pas possible, ils vont jamais pouvoir, ils sont épuisés, ces pauvres chéris, ils sont épuisés. Alors, d'abord, effectivement, il y a effectivement besoin de temps, de sas, c'est pour ça qu'il y a ce goûter qui permet aux enfants de se reposer. Et puis, moi, la meilleure réponse, il y a deux réponses à ça. Il y a, on va bientôt en être au 100 000e enfant, donc si les enfants étaient fatigués, ça saurait. Donc, déjà, tous les praticiens ont observé, etc. Et puis, il se trouve que j'ai une fille qui est médecin, qui s'occupe d'enfants, etc. Je lui ai dit ça un jour, je lui ai dit, mais on me dit toujours, les enfants vont être fatigués. Elle m'a dit, mais papa, mais t'as déjà regardé une cour de récréation ? Quelle que soit l'heure ? Tu as vu la fatigue des enfants? Vous avez vu une cour de récréation? Les enfants ne sont pas fatigués. Ou ils sont motivés ou ils ne sont pas motivés. Lorsqu'effectivement, ils sont dans un endroit, peut-être éventuellement une salle de classe, où il y a quelque chose qui ne les concerne pas et qui ne les motive pas, il peut arriver qu'ils se sentent un peu fatigués. 2 minutes après, vous les mettez dans la cour de récréation, il y a beaucoup moins de fatigue. Donc, ça n'est pas une question de fatigue, c'est une question d'attention et c'est une question de motivation. Et cette motivation, on va chercher à l'entretenir grâce, effectivement, à la programmation de la séance. D'abord, effectivement, avec ce sas de détente et de goûter qui est très important, qui sert donc, effectivement, de ça, c'est de temps de récupération, mais qui est aussi un temps très important pour l'animateur, et les animateurs sont formés à ça, car l'animateur doit détecter par un échange informel si l'enfant a des difficultés, s'il se passe quelque chose dans sa vie qui aujourd'hui, de manière plus ou moins importante, est capable de le bloquer dans les apprentissages. Car on parle souvent des élèves, mais avant d'être des élèves, ce sont des enfants qui certes passent un certain nombre d'heures à l'école, mais qui ont une vie en dehors de l'école. Et lorsqu'un enfant est dans une situation psychologique où il y a des difficultés, des blocages à l'extérieur, à l'évidence, c'est susceptible de bloquer tous les processus qui permettent de rentrer dans les apprentissages. Et donc, il faut être en capacité de pouvoir détecter d'éventuels blocages et d'essayer, lorsque c'est possible, d'apporter effectivement des correctifs à cette situation. Ensuite, ça fait partie de la relation avec l'enseignant de cours préparatoire. Un grand nombre d'enseignants en cours préparatoire donnent aux enfants un travail à faire à la maison. Dans les familles dont nous parlons, ce travail qui devrait être fait à la maison, on va dire, ne l'est pas toujours. En coup de pouce-clé, il fait partie intégrante du dispositif. Donc, il y a 15 minutes qui correspondent au travail donné par l'enseignant sur, évidemment, les sujets de lecture-écriture. Hein. Sur, si l'enseignant a donné d'autres choses, ça, ça n'est pas traité dans le coup de pouce-clé. Quatrième partie, c'est le cœur du dispositif coup de pouce clé. Et là, c'est là sur lequel effectivement les chercheurs ont aussi travaillé, pour, autour de la lecture, du mot, de l'oralité, du langage, de la lecture, des jeux de mots, des jeux de rythme, des jeux sonores, travailler sur ce qu'on appelle un temps fécond pour effectivement pratiquer la chose écrite, à la fois sous forme de lecture et d'écriture. On est dans le temps de l'enfance, on est sur des jeunes enfants, on est sur des jeunes enfants qui sont en fragilité. Il n'est pas question de refaire le temps de la classe, je l'ai dit, mais il est question, par des jeux que vous connaissez sans doute et qui se pratiquent d'ailleurs dans beaucoup de familles, et puis d'autres qui sont inventés, et c'est là où la créativité de chacun des animateurs est ouverte, hein, avec des modèles qui sont donnés, eh bien, on va, grâce à ces activités brèves et ludiques, vous voyez, il y en a 4 ou 5, donc chacune d'entre elles va durer à peu près 5-6 minutes. Et enfin, on termine toujours, le coup de pouce-clé se termine toujours par la lecture de la belle histoire. Je l'ai dit tout à l'heure, il est important pour les enfants d'ouvrir en grand, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes et de leur montrer que la lecture, c'est un moyen formidable d'accéder à des choses extraordinaires. Et donc, la lecture de la belle histoire, c'est aussi, il y a beaucoup de moments dans les clubs coup de pouce-clé qui sont émouvants, mais c'est incroyable et c'est partout. C'est tous les soirs, dans toutes les classes. C'est un moment invraisemblable où on voit ces enfants qui sont absolument fascinés par la lecture de la belle histoire que leur fait leur animateur ou que leur fait, car c'est bénéfique, éventuellement un des parents qui est venu assister à une séance ou un invité. Et c'est encore plus fécond lorsque, bon, au début, en novembre, décembre, la lecture va être faite par l'animateur, mais plus le club avance, plus c'est fécond que la belle histoire soit lue par un invité, et encore plus si c'est lu par un papa ou une maman. Et enfin, dernier temps de la séance est terminée, les parents viennent chercher leur enfant, c'est le moment aussi d'un échange animateur-parent, c'est extrêmement important pour assurer la régulation du dispositif. Donc, qu'est-ce qui fait qu'effectivement cette action, je vais vous parler des résultats qu'on obtient, qu'est-ce qui fait qu'elle donne des résultats qui sont, je crois, assez concluants. La première chose, c'est l'engagement quotidien des parents. Souvent, disons, les clubs coup de pouce clé se situent à peu près aujourd'hui, il y a à peu près 1900 clubs dans toute la France, et ils se situent à 85% dans ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles. Je ne veux pas faire du Zola, mais quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, de temps en temps, quand on parle de zones urbaines sensibles, il y a vraiment des situations difficiles. Et un certain nombre d'enfants sont vraiment dans des situations très difficiles. Et on a affaire à des parents qui se battent pour leur survie. Un des exemples qui, malheureusement, qu'on observe, qui est en forte croissance, et nous avons fait une étude récente qui montre que dans les clubs coup de pouce clé, il y a 2,5 fois plus d'enfants de familles monoparentales que dans le reste de la classe, ce sont les familles monoparentales. Alors, pas si monsieur ou madame est cadre supérieur à quelques milliers d'euros par mois, etc. Non, mais famille monoparentale avec un parent qui est en situation économique tendue. Qu'est-ce qui se passe? L'exemple type, c'est la maman qui a 25-30 ans, deux ou trois enfants, seule à la maison, et qui se bagarre pour assurer la survie de ses petits bouts, qui le matin emmène ses enfants à l'école, fait ses courses, un peu de ménage, et qui, à 15h, va prendre son poste chez Carrefour ou chez Auchan, ou bien comme femme de ménage pour s'occuper du ménage d'entreprise ou de grandes institutions, de machin, etc. Ben oui, de 15h à 21h, elle bosse. Donc elle n'est pas là. Et cette absence, qui n'est, encore une fois, n'est pas problématique pour les trois quarts ou les quatre cinquièmes des enfants, peut l'être pour certains enfants fragiles. Le coup de pouce clé va permettre progressivement à ses parents de sortir de l'obsession économique dans laquelle ils sont et qui parfois fait qu'ils savent et ils n'ont qu'une envie. 100% des parents n'ont qu'une envie, c'est la réussite de leurs enfants. Mais parfois, le poids de la vie quotidienne est tel qu'on en oublie de faire des actes quotidiens simples qui permettent effectivement d'apporter une grande aide à ces enfants. Donc, l'engagement, obtenir l'engagement quotidien des parents, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est l'augmentation quotidienne du temps de contact des enfants avec l'écrit. Le troisième levier, c'est le plaisir et le sens. Et enfin, le quatrième levier, c'est on gagne. Quand on est au club coup de pouce clé, on gagne. On fait un exercice, on fait un jeu, on gagne. L'animateur est formé pour ça. Et donc, lire, ça devient fun, cool, intéressant et valorisant. Nous faisons depuis le début, parce qu'il se trouve que dans les co-concepteurs du coup de pouce-clé, dans les enseignants qui ont conçu cela, il y avait plusieurs enseignants de physique, des profs de physique qui tenaient à faire des évaluations et à mesurer les résultats dès le début. Donc tous les clubs, coup de pouce clé, de France, partout, tous font l'objet d'une évaluation et d'une mesure des résultats. Il est envoyé à tous les enseignants de cours préparatoires qui participent au club, donc ça en fait, ça fait à peu près de 2000, un questionnaire chaque année. On a un taux de réponse à ce questionnaire de 78%. Je peux vous dire que quand je dis ça au ministère de l'Éducation nationale, on me dit, vous pouvez répéter le chiffre? Parce que les questionnaires envoyés par le ministère aux enseignants, c'est rare qu'ils atteignent 78% de taux de réponse. On a 78% de taux de réponse. 97% des répondants estiment que le coup de pouce est complémentaire de leur travail. Quant aux résultats sur les enfants, en gros, on voit qu'on a un résultat assez net sur à peu près 4 enfants sur 5. C'est-à-dire, dès la fin du CP, 4 enfants sur 5 sont devenus bons ou moyens lecteurs. Bons ou moyens lecteurs, on peut dire qu'ils sont sortis de la zone rouge. Il y a donc encore 20% d'enfants fragiles. On a une observation de l'amélioration de la confiance en soi pour 83% et de la motivation pour 78%. Malheureusement, effectivement, et faute de moyens et de temps, etc., nous n'avons pas pu à ce jour nous consacrer à l'étude des 20% qu'on laisse sur le chemin. Ça serait un vrai sujet. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on va travailler dans les prochaines années. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'ils sont là. On ne sait pas pourquoi. Ils ont échoué, on ne sait pas. Mais, bon, on s'est plutôt concentré jusqu'à présent sur l'idée que ça valait le coup d'éviter à 80% d'enfants fragiles l'échec. Et donc, on s'est concentré là-dessus. Les parents. 75% ont assisté à au moins une séance dans l'année. 85% pensent être en mesure d'accompagner leur enfant à l'avenir dans leurs études. Alors, dans le midi, 85%, certains diraient peut-être qu'ils se vantent. Peut-être, mais peu importe, parce que le fait qu'ils répondent cela signifie qu'ils ont pleinement intégré à quel point c'était important qu'ils s'impliquent dans l'accompagnement de leur enfant, et donc l'objectif est atteint. Nous avons aussi des évaluations cognitives, c'est-à-dire qu'on a essayé de montrer est-ce que les enfants ont mieux appris à lire, pas appris à lire, etc. Alors, on a un point qui n'est pas complètement positif, c'est qu'on n'a pas d'effet cognitif différencié mesuré, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'identifier l'effet spécifique d'un coup de pouce clé. Un coup de pouce clé, je l'ai dit, c'est une action complémentaire du temps de la classe. Qu'est-ce qui provient du travail de l'enseignant, du temps passé en classe, du coup de pouce clé? Aujourd'hui, il y a eu des tentatives d'études, elles n'ont rien montré du tout. Donc aujourd'hui, non, je ne suis pas capable de vous dire le coup de pouce clé, c'est une potion magique qui est meilleure que les... Non, sûrement pas. Hein. C'est complémentaire et c'est le travail ensemble des enseignants et des animateurs qui font les clubs qui fait qu'on a un résultat. Quelle est la part de l'un et de l'autre? On ne sait pas. Ce qu'on mesure par contre, c'est que ces élèves-là qui étaient repérés comme étant fragiles dans l'apprentissage de la lecture progressent autant que les autres élèves de leur classe. Il n'y a donc pas eu de décrochage. On retrouve là un chiffre de 71%, donc ça je cite le verbatim des études, de la majorité des élèves coup de pouce clé. On peut dire qu'ils n'ont pas décroché en lecture et n'ont pas été décrochés dans les apprentissages en classe. Donc on peut estimer qu'on a un taux de réussite qui se situe entre 70 et 80% en rapprochant les différentes études. Autre élément qui est une étude qualitative qui a été faite par le gouvernement en 2012 dans 13 villes, dans 19 clubs, et qui a consisté à aller interroger, donc dans 13 villes, où il y avait des clubs coup de pouce clé, à peu près 150 à 200 personnes, à la fois des maires, des enseignants, des animateurs, des parents, etc. Cette évaluation montre que le coup de pouce clé répond bien aux objectifs visés, à savoir prévenir les carences d'un certain type d'élèves, majoritairement issus des catégories sociales les plus défavorisées, les plus éloignés du monde scolarisé, travailler sur les aspects socio-cognitifs des apprentissages et dynamiser les relations entre l'enfant, l'école et la famille. Donc, on en conclut que, enfin, l'étude conclut que le coup de pouce clé constitue un dispositif pertinent de prévention précoce de la rupture scolaire. Alors, c'est quoi aujourd'hui le coup de pouce clé ? Ben, je l'ai dit, l'association a repéré ce dispositif en 93. Depuis 94, qui était donc 93-94, la première année de mise en œuvre, 90 000 enfants en France en ont bénéficié. À la fin de cette année, on sera à 100 000. On sera à peu près à 100 000, puisque ça, c'est à la fin de l'année scolaire dernière. On tourne à peu près à 10 000 enfants chaque année en ce moment, dans environ 250 villes. Et ça mobilise 6 700 acteurs, donc 2 400 maîtres de cours préparatoires, les directeurs d'école qui sont impliqués et les animateurs qui sont engagés pour animer des clubs. Alors le dispositif, il est un peu partout aux quatre coins de France, y compris d'ailleurs dans les Outre-mer, puisqu'une des villes importantes où il y en a, c'est Fort-France. Donc il y en a en Guadeloupe, en Martinique et à l'île de la Réunion. Sinon, on voit bien qu'à part Paris-Marseille, donc, où il y a deux très gros dispositifs, on retrouve des grandes villes de banlieue de la région parisienne, Colombes, qui est toujours là, Drancy, Sarcelles, Argenteuil ou Trappes, et puis des villes type Aix-en-Provence, Orléans, Tourcoing. Alors, la Bourgogne n'est pas un lieu d'implantation fort. Il y a une ville assez dynamique qui est Auxerre. Et c'est plutôt au nord de la Bourgogne. Auxerre est une ville où les clubs coup de pouce clé marchent très bien. Ils sont en place depuis 10 ans avec des résultats remarquables et une implication très très forte. Alors c'est le cas aussi de la charité et le talent, mais enfin à des niveaux équivalents à la taille de ces villes. Mais il y a aussi une implication très très forte des maires dans chacune de ces trois villes. Alors comment ça marche ? En fait, au départ, c'est la ville qui décide d'implanter ou pas des clubs coup de pouce clé dans sa ville. C'est un choix de la municipalité. Et c'est quelque chose, je crois, qui n'allait pas de soi, mais qui maintenant va aller encore plus de soi depuis que la loi de refondation de l'école a mis l'accent sur les nouveaux rythmes scolaires et a confié aux villes une responsabilité importante quant à la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires et de ce qu'on appelle les TAP ou les NAP, donc les temps d'activité périscolaire, qui sont maintenant obligatoires partout en France. Donc les municipalités mettent en place, c'est elles qui décident, en lien avec les écoles. Au quotidien, les acteurs, ce sont des animateurs qui sont recrutés pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont rémunérés. Dans les grandes villes, ces animateurs sont souvent des étudiants en master de l'éducation. Ailleurs, ce sont souvent des enseignants ou d'autres personnes qui travaillent dans l'univers de l'école ou de l'action sociale et qui ont au moins un niveau BTS, plus une pratique d'un certain nombre d'actions de jeunesse. L'opération peut être soutenue financièrement par l'État, c'est-à-dire que l'État, je l'ai dit tout à l'heure, les dispositifs sont en place dans 85% de zones urbaines sensibles ou de zones dites défavorisées, donc qui bénéficient de soutien de différentes agences de l'État qui peuvent aider au financement. En particulier, le coup de pouce clé, à peu près dans les deux tiers des cas, bénéficie d'un dispositif qui est remarquable, qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Borloo et qui s'appelle les programmes de réussite éducative, ou PRE. Et ces programmes de réussite éducative sont un dispositif remarquable et qui permet effectivement une action dans les zones sensibles très coordonnée, très cohérente des différents acteurs de la réussite éducative, et les coups de pouce clé s'inscrivent très souvent dans les programmes de réussite éducative. Ils peuvent aussi s'inscrire dans d'autres dispositifs comme ce qu'on appelle les contrats locaux d'action sociale. Ils s'inscrivent ainsi dans différents contexte collectif et action collective qui peuvent permettre des financements mutualisés. Et quant à notre association, le soutien que nous apportons est, lui, un soutien logistique. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que tous les acteurs, les enseignants et les animateurs, soient formés. Et donc, il y a une formation chaque année qui est faite par des ingénieurs qui sont salariés de notre association. Notre association apporte ce soutien logistique gratuitement aux villes et gratuitement aux écoles, et elle peut se le permettre car il y a un travail qui est fait à côté pour obtenir de la part de l'État des subventions et de la part de sociétés privées du mécénat, de manière à ce qu'effectivement les ingénieurs que nous mettons à disposition des villes soient rémunérés. Alors, la rémunération des animateurs et le matériel, parce que je n'ai pas insisté sur le matériel, ça revient à moins de 10 euros par heure par enfant. Soit pour l'ensemble de l'année scolaire, de 800 à 1200 euros. Pourquoi ? Parce que la rémunération est laissée à la discrétion des villes. Donc il y a des villes qui rémunèrent bien leurs animateurs, d'autres moins bien. Et parce que le nombre de jours d'intervention est également variable. Et nous, tout le pilotage national, la formation à l'ingénierie, ça revient à 300 euros par enfant. Et ces 300 euros, eux, sont financés donc par un mécénat national et par des dons des subventions d'État. Au total, pour un enfant, ça revient entre 1 000 et 1 500 euros par an, une fois dans sa vie. Alors, c'est une somme importante, notamment par rapport à d'autres dispositifs, qu'il faut rapprocher des taux d'efficacité, mais qu'il faut aussi rapprocher de qu'est-ce que ça coûte si on ne le fait pas. Il faut savoir qu'un redoublement dans le primaire, ça coûte 6 000 euros. Dans le secondaire, ça coûte 8 500 euros. Et, je l'ai dit tout à l'heure, un décrocheur, donc un enfant qui est en échec total à 16 ans, ça coûte 230 000 euros à la nation. Bon, ce que nous essayons de faire, c'est d'améliorer constamment le dispositif coup de pouce clé. Il a été conçu, inventé, mis en place en 1993-94, donc les choses bougent, les temps changent. Et donc en permanence, chaque année, on fait remonter des informations de l'action de terrain pour en permanence mettre en place une action qui est la plus efficace possible et qui tient compte de ce qui n'a pas marché comme de ce qui a marché. Et par exemple, nous avons maintenant mis en place dans tous les clubs coup de pouce clé un dispositif qui est exceptionnel sur le plan de la pédagogie, que nous avons inventé, qui s'appelle le prix des premières lectures, et qui est en fait un dispositif où ça se passe, il faut pour ça que les enfants aient un peu avancé, donc en fait ça se passe en avril. Les clubs coup de pouce clé reçoivent toutes une dotation de 4 livres pour enfants qui sont de l'année, qui ont été sélectionnés par un comité de lecture, évidemment, de gens spécialisés, qui sont donc des enfants, des livres pour enfants de cours préparatoire. Ces 4 livres, chaque livre fait l'objet d'un travail pendant une semaine au sein des clubs. Et la cinquième semaine est consacrée à un vote, sachant que le vote est bien sûr un moment pédagogique. C'est-à-dire qu'il s'agit non seulement d'élire le livre, mais d'expliquer ce que c'est qu'un vote. Pourquoi on vote? Comment on vote? Comment il se fait qu'à la sortie du vote, il se peut que le livre élu ne soit pas celui pour lequel j'ai voté? Tout ce genre de choses. En fait, ce prix des premières lectures a été mis en place au départ un peu par hasard et de manière limitée, et il existe maintenant depuis 7 ans. On s'est aperçu que c'était un outil pédagogique exceptionnel, et donc c'est un exemple. Il n'existait donc pas dans les clubs coup de pouce clé d'il y a 20 ans et même pas d'il y a 10 ans. C'est un exemple effectivement de la vie de ce qu'est un club coup de pouce clé, même si les coups de pousselet sont quelque chose de normé, de figé, avec un process précis. Ce process lui-même fait l'objet d'une amélioration constante. Alors, nous souhaitons ne pas nous arrêter là. Donc, aujourd'hui, nous avons deux dispositifs qui sont inspirés du coup de pousselet, qui nous ont été demandés par les écoles et par les villes, et qui correspondent à des problèmes complémentaires, toujours sur l'échec scolaire précoce. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe l'année d'après, c'est-à-dire en CE1. Et là, en CE1, un certain nombre d'enseignants nous ont dit « Mais c'est bien la lecture, mais il y a aussi des enfants qui rentrent en échec, et gravement, voire très gravement, à cause des maths. » Parce qu'on parle de maths dès le CE1. Et un enfant qui est un échec en maths en CE1, c'est aussi un échec dans l'apprentissage qui peut avoir des répercussions terribles. L'enfant peut rentrer dans une spirale négative dès le CE1 et dès le CE2. Donc là, on a fait rentrer à notre conseil scientifique des mathématiciens et sur la base du modèle coup de pouce clé, qui lui est donc club de lecture-écriture, a été inventé pour le CE1 un dispositif qui s'appelle le coup de pouce clem, qu'on a inventé il y a 3 ans, et qui est donc aujourd'hui en 3e année d'expérimentation, et qui est probablement promis un certain développement, puisque il a, en décembre dernier, il a été primé par un dispositif qui s'appelle les PIA, Programme Investissement d'Avenir, qui est un programme de l'État pour favoriser le développement de ce que l'État estime être un certain nombre de programmes d'investissement d'avenir pour ce pays. Et donc le coup de pouce clem fait l'objet de ce soutien et sera probablement... Aujourd'hui, il est dans 20aine de villes, mais il est probablement amené à se développer fortement dans les prochaines années, si l'État tient ses promesses, ce qui est un autre débat. Autre sujet, beaucoup d'enseignants nous ont dit « Oui, mais c'est bien votre truc, mais on a aussi un problème, c'est qu'il y a des enfants qui arrivent en CP, ils ont 300 mots de français. » Apprendre à lire sans savoir parler, c'est impossible. Donc on a aussi un problème qui est qu'un certain nombre d'enfants quittent la grande section de maternelle sans avoir le bagage oral de langage indispensable pour apprendre à lire. On ne peut pas apprendre à lire si on ne sait pas parler. Donc, nous avons décidé de travailler sur ce sujet et nous avons effectivement lancé une innovation qui s'appelle le coup de pouce CLA, qui est destiné aux grandes sections de maternelle, qui aujourd'hui est un prototype amélioré, puisqu'il est le prototype de l'année dernière, on est en 2e année, et qui est aujourd'hui dans 20aine de villes, qui concerne à peu près 400 enfants, et qui, lui, il faut qu'on continue à travailler dessus, à l'améliorer. On sent qu'il y a une très forte motivation de certains enseignants, parce que c'est un vrai problème, ce que les enseignants appellent les enfants en petits parleurs. Donc c'est un vrai sujet, mais pour l'instant, ça c'est plutôt l'avenir que le présent. Voilà. Ah, et puis pour terminer ce petit parcours, un mot que j'ai trouvé dans le livre autobiographique d'Albert Camus. Vous le savez peut-être, Albert Camus connaissait bien le sujet puisque sa maman était illettrée. Et lui-même, qui était, aujourd'hui on dirait qu'il vivait dans un quartier très défavorisé d'Alger, doit beaucoup, et il l'a écrit, il en a parlé, puisque c'est la seule personne qu'il a citée dans son discours de réception lorsqu'il a obtenu le prix Nobel de littérature. La seule personne qu'il a citée, à part sa maman, c'est son instituteur. Et il disait de l'école, ce qui est formidable dans l'école que j'ai vécue avec M. Germain, son instituteur, c'était que tout d'un coup, les enfants que nous étions, on les jugeait dignes de découvrir le monde. Ben, tout ce qu'on essaye de faire au coup de pousse-clé, c'est pas d'apprendre telle ou telle méthode, c'est pas d'enseigner le BEVA, c'est de dire aux enfants, vous êtes dignes de découvrir le monde. Et je crois que si on peut arriver à transmettre cela, c'est un accompagnement qui peut leur être utile sur le chemin de leurs apprentissages. Voilà ce que j'avais envie de vous dire dans un premier temps, et donc si vous le souhaitez, ben, on peut continuer.
Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très clair et très intéressant. Alors, on va laisser la parole à la salle fort nombreuse qui va poser des tas de questions. Y a-t-il des questions? Moi, j'en ai au moins... Oui?
Les enseignants sont favorables à ce système?
Pas tous. Vous savez, les enseignants, c'est 850 000 personnes en France. Donc, il y a un sociologue qui a dit « le français moyen est mort ». Il a raison, ça n'existe plus, le français moyen, il n'existe pas. L'enseignant, c'est pareil, il n'existe pas. Il y a des enseignants. Donc, effectivement, il y a des milliers d'enseignants qui sont très favorables, qui non seulement sont très favorables, mais qui pratiquent. Et comme vous l'avez vu, à 97%, ils sont pratiquants fidèles et convaincus, ceux qui pratiquent. En revanche, il existe effectivement des enseignants qui, par conviction, sont contre, en disant « mais votre truc, c'est à l'école de le faire ». Donc, il y a deux, quand les enseignants sont contre, il y a deux raisons. C'est « ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais », bon. Et l'autre raison, c'est ouais, peut-être ça peut marcher, ça n'a pas l'air idiot, mais c'est à l'école de le faire, donc on n'en veut pas. Voilà. Donc ça existe. Je n'ai pas aujourd'hui d'éléments quantitatifs qui me permettent de vous dire, etc. Il nous semble que la majorité des enseignants à l'école primaire est plutôt favorable à des dispositifs de ce type et que l'évolution fait que les enseignants se rendent bien compte que l'école, elle fait partie d'un monde et qu'il faut vivre dans ce monde et être ouvert sur ce monde.
Oui.
Oui, il y en a eu à Mâcon, et pour des raisons financières, ils ont... Alors, je ne sais plus si c'est les raisons financières, ou les, parce que vous savez, 200 villes, je n'ai pas en tête tous les trucs. Il y a eu des élections aussi. Alors, il y a des villes qui ont arrêté à cause des élections, d'autres à cause de raisons financières, puisque les rythmes scolaires dans certaines villes n'ont pas toujours été maîtrisés sur le plan financier. Donc, certaines villes se sont pris des surcoûts financiers sur la ligne vie scolaire, qui fait que certaines villes y ont renoncé. Peu, mais je crois que c'est le cas de Mâcon. Ben, on n'a plus beaucoup le temps, malheureusement. Donc, c'est vrai qu'une des grosses difficultés qu'on a aujourd'hui, là où on est, le dispositif, il se développe, parce que là où il fait... Mais ça devient compliqué, entre guillemets, d'ouvrir des nouvelles villes, parce que ça demande du temps et ça demande un contact. La décision de départ, elle peut venir soit du DAZEN, donc de l'inspection d'académie, soit mieux de la ville. Et on n'a pas toujours les contacts, d'autant plus, par exemple à Chalon, quand il y a eu un changement de majorité, où les gens débarquent, ils sont nouveaux. Alors il se peut, c'est pas très loin, c'est pas à la Bourgogne, enfin c'est pas très très loin non plus, Ça peut être aussi une opportunité. Par exemple, Belfort a changé de majorité et Belfort, du coup, a donné la nouvelle majorité s'est donné un objectif très important. Une des priorités du nouveau mandat, c'est l'éducation. Et donc, effectivement, ils ont été intéressés à nous rencontrer. Et Belfort a mis en place 12 clubs coup de pouce clé dès cette année. Mais voilà. Mais si vous avez des entrées pour rencontrer.
Comment ? Oui ? Oui, 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 oui. Oui, bon, on va lui en parler. C'est fait pour. Là, on regrette un petit peu. Évidemment, la date n'était pas favorable puisque c'est la dernière conférence de l'année. Donc, nous, on a notre rôle, si vous voulez, c'est pas évidemment vu l'âge moyen des personnes qui sont dans la salle et c'est pas une injure. On n'est plus tellement en charge de jeunes. Enfin, il y a. Voilà, non, mais on peut diffuser l'information, si vous voulez, de ce que vous nous apportez dans notre réseau familial, dans notre réseau d'amis, et disons de faire savoir, puisque d'une part, votre présentation, elle sera sur notre site, d'autre part, l'enregistrement de tout ce que vous nous avez dit, qui était très clair, sera à disposition, bien sûr, gratuite et ouverte à la planète entière, donc si... Très modestement, on peut contribuer à diffuser la connaissance de votre association. Vous êtes venu, j'ai découvert que vous existiez. C'est le cas de tout le monde qui sont dans cette salle. Donc, c'est fait pour ça, si vous voulez. Nous qui sommes physiquement ici présents, c'est intéressant, mais en plus, on a des moyens de relayer cette information dans notre premier cercle et deuxième cercle. Voilà. Hein? Oui ?
Oui. Une dame qui, pour une centaine d'années maintenant, qui a été enseignante dans la et qui finalement m'a répété tous les dimanches, je l'amenais au culte le matin, le dimanche matin, me disait, à la Noël, 80% de mes élèves savaient lire, et à Pâques, 100%. Oui.
Vous pouvez parler de ces...
Alors, il y a deux questions. Bon, sur la méthode, il est clair aujourd'hui, les directives du ministère de l'Éducation nationale sont claires. On en revient à la méthode syllabique et les... On y est déjà depuis plusieurs années. C'est en place.
Est-ce que c'est généralisé?
Oui, c'est généralisé.
Oui. De pas comprendre. Mais...
Absolument.
Finalement, on arrive difficilement à comprendre une association qui est très près de l'éducation. Finalement, on va tout ça pour le texte.
Bien, on ne veut pas rallumer les guerres scolaires. On a tout ce qu'il faut pour le faire actuellement dans l'actualité. Oui, oui, allez-y, oui.
J'ai pas besoin de, peut-être de micro. Oui.
Moi, simplement, je voulais demander, les communes rurales, les petites communes rurales sont un peu laissées à l'écart, là. Enfin...
Alors, oui
parce que
non.
C'est, ça doit être très, très difficile.
La Charité-sur-Loire, c'est pas
oui,
c'est
mais
pas
ça doit être très difficile.
Hein.
De...
En revanche, c'est vrai que, et sur les 250 villes où on est, il y a beaucoup de Charité-sur-Loire. En revanche, c'est vrai qu'il y a un seuil en dessous duquel on a du mal à aller et que, je me souviens de ce film... Ça s'appelait, je crois, être ou avoir, ou être et avoir, sur une classe où il y avait à la fois un CP, un CE1, CE2, enfin, il y a jusqu'au CM2, ça on n'est pas équipé pour ça. Là, on ne sait pas faire. Hein. La classe multi-classe, etc., c'est un cas tellement particulier, mais c'est un cas particulier, on le voit bien d'ailleurs dans le film de Nicolas Philibert, dans être et avoir, ou être ou avoir, je ne sais plus. Ça, l'enseignement lui-même doit être adapté à ces situations-là. Mais c'est vrai que ça fait partie des questions qu'on se pose. Et là aussi, j'ai parlé des 20% d'enfance au bout des 30 sur lesquels on est en échec. C'est des questions auxquelles on joue, on voudrait se confronter, trouver le moyen d'aller dans des communes encore plus petites. Aujourd'hui, il y a une taille en dessous de laquelle on est en difficulté pour y aller. Mais quand même, bon, de mémoire, la Charité-sur-Loire, c'est 4500 habitants. Hein.
Oui. Attends, laisse la parole à d'autres, parce que si tu monopolises tout, on ne va pas y arriver. Moi, je voulais un petit complément sur la motivation des enseignants. Donc, vous avez commenté cet aspect-là. Je dois dire aussi, moi, je suis conseiller municipal, donc je connais un petit peu... l'ambiance, si vous voulez, qui règne dans ces choses-là, et dans la culture française, indépendamment des idées politiques, d'ailleurs vous trouvez les deux sensibilités, soit à gauche, soit à droite, le fait que la municipalité, même si elle a d'excellents rapports avec l'ensemble des enseignants, elle est très frileuse sur le fait de dire « je vais mettre un orteil » sur le contenu pédagogique en disant là c'est une ingérence et là je peux vous dire que c'est chaque fois que j'entends parler de ces choses-là, je m'en occupe pas, je vous rassure tout de suite, donc je peux en parler très librement et donc c'est
bien pour ça que comme je l'ai dit dans une des toutes premières slides, nous ne sommes pas sur le temps de la classe, et nous ne sommes pas sur le contenu pédagogique, nous sommes une action périscolaire.
Maintenant, effectivement, avec les rythmes scolaires, on a mis un pied dans la porte pour dire, la municipalité a une vocation, j'allais dire, juridique à s'impliquer dans ce contenu, hein, et ne pas faire que du gardiennage ou des bêtises, si vous voulez, faire des choses intelligentes comme celles que vous proposez. Mais je sens bien qu'il y a une frilosité parce qu'on craint les réactions. Et je peux vous dire, dans la commune auquel j'appartiens, les relations entre l'équipe et le milieu enseignant sont excellentes. Mais le maire, disons, quand on parle de ça, ça c'est de la pédagogie, c'est pas nous. Et on est resté dans cette... c'était ce qui se passait avant. Donc il faut que les mentalités évoluent pour que les choses bougent, si vous voulez. Hein. Voilà. Hein.
Pardon ?
Les dérives actuelles, on est allé de 100% de réussite il y a un siècle.
Non, c'est faux. Les premières études dont on dispose, ont été faites à peu près au tournant du siècle 19-20. Et le taux d'illettrisme en France, grosso modo, autour de la guerre de 14, il était de 40%. Il y avait 40%. Il n'a cessé de décliner. Il a été en déclin constant jusqu'en 1990. On est passé de 40 à 10%. En revanche, il est vrai que depuis 1990, il est stable. Il ne baisse plus. Donc ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi, effectivement, on n'arrive pas à passer en dessous? Et c'est, de mon point de vue, tout à fait anormal, surtout quand on a des outils comme ça qui permettraient de résorber une partie du problème. Oui. Il y a une partie, parce qu'en effet, il y a
vous
aussi...
Vous avez évacué les toujours, problèmes médicaux aussi.
Il y a les problèmes médicaux, il y a l'illettrisme rural, qui est un vrai sujet aussi. Bon, donc il y a d'autres sujets, mais je pense qu'on pourrait quand même déjà gagner au moins sur ces 10%, 3 ou 4 points. Mais rêvons. Au lieu d'avoir 10 000 enfants en club coûte tous les parents, on en a 60 000. On baisse de 3 à 4 points le taux d'illettrisme en France. Mais avant, je répète, il y a quelques études précises sur le sujet, on venait de 40%. Donc l'illettrisme était considérable dans les campagnes. Considérable, avec des taux qui dépassaient les 50%.
Voilà. Pourquoi on l'a vu? C'est simplement parce qu'on a fait la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est-à-dire que des gens qui étaient abandonnés et qui échappaient à la limite aux statistiques à 12 ou 13 ans, qui ne savaient pas lire, on ne le voyait pas. Mais maintenant, comme l'outil de lecture est un outil indispensable à passer la phase du collège, on voit comme le nez au milieu de la figure qu'il y a un problème. Alors qu'avant, on le voyait beaucoup moins. On le voyait beaucoup moins. Et pourquoi c'est devenu si aigu? C'est que la vie moderne, dans tous les sens du terme, on a besoin de l'écrit du point de vue professionnel. Absolument. Dans les années 50, il y avait 30% des gens qui n'écrivaient jamais et qui avaient un métier qui était des ouvriers agricoles ou des choses comme ça. Aujourd'hui, vous avez besoin de faire des papiers pour n'importe quoi, pour survivre dans le milieu tel qu'on le connaît. Donc la lecture, c'est comme l'oxygène. Si on ne sait plus lire, on ne peut plus vivre, hein, ça c'est clair dans nos systèmes. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas, ou beaucoup moins, au début du XXe siècle.
Bien sûr, et même jusque dans les années 70.
Jusque dans les années 70. J'ai vécu mon service militaire avec des illettrés complets, qui ne savaient que écrire, donc il y avait mon âge, qui ne savaient que dessiner le nom de leur nom en lettres capitales. Donc, eh bien, ils ne savaient pas lire. Ils avaient un métier. Ils étaient OS dans l'industrie automobile. Ces métiers-là ont tous disparu aujourd'hui. Et les illettrés, eh bien, on les voit comme le nez au milieu de la figure. Voilà. Il n'y a plus de métier pour des gens qui ne savent pas lire. Non, elles étaient ce qu'elles étaient, on avait...
Ah non, moi j'ai pas dit ça.
Ben, on sait pas, mais le...
Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, et je vous rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire que on pouvait tolérer l'illettrisme dans les sociétés anciennes, car on pouvait s'intégrer socialement, sans maîtriser la lecture et l'écriture. Il y avait de nombreux emplois qui étaient disponibles. Il y avait les gens avec les marteaux-piqueurs dans les rues. Moi, j'ai fait... quand on travaillait en usine, on pouvait être... Il y avait des tas de métiers. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes en usine, vous avez des machines alphanumériques, il faut être capable de lire rapidement les consignes. Voilà. On ne peut plus travailler...
Mais même sans parler de machines compliquées, simplement pour faire des papiers à caractère social... C'est-à-dire remplir des formulaires et des choses comme ça. Les techniciens de surface, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire les balayeuses, comme on disait dans le temps, doivent remplir des papiers, ne serait-ce que leur bulletin de leur pointage des heures. Le pointage des heures. Avant, on ne pointait pas les heures. Oui. 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 Bien sûr, bien sûr. D'écriture, bien sûr. Et de. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui.
Bien sûr.
Oui, oui, oui.
Bien sûr.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui. Ah bah oui, on ne sait plus compter, hein, on ne sait plus compter, on ne sait plus compter. Oui, 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 oui. On va remercier à nouveau M. Bourvis qui reviendra nous voir l'année prochaine. Alors, bon, comme il y avait peu de personnes qui... Oui. Comment ? Ah, il y avait un film ? On regarde le film ? Oui, il dure combien de temps ?
Allez. Comment on passe au film, monsieur ?
Attendez, on va... il est là. Attendez.
Alors, juste un mot sur le film. On va vous passer un petit film qui dure 6 minutes. L'intérêt de ce film, c'est qu'il donne la parole à des enfants qui étaient en coup de pouce clé il y a 5 ans. Donc, ce...
constamment le
Bien, eh bien, merci. Et puis, à l'année prochaine, sur un autre sujet. Voilà. Allez, au revoir.
Merci de votre accueil.